Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC. Grand plateau. Johan Bredov.
Salut à tous, il était attendu, scruté, placé en tant que grandissime favori de cette édition de Liège-Bastogne-Liège. Tadej Pogacar n'a laissé aucune miette à la concurrence en dominant de la tête et des pédales la doyenne. Rien ni personne ne pouvait se mettre en travers de la route du Slovène qui avait une revanche à prendre après sa chute de l'an passé, pas même un Mathieu Van Der Poel emprunté physiquement et qui n'a jamais pu peser sur la course. Le champion du monde termine tout de même à une troisième place presque inespérée mais à plus de 2 minutes de Poggi. Le duel annoncé n'a donc pas eu lieu et s'est soldé par une démonstration, une nouvelle après celle de Mathieu sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Pas de suspense, des numéros de soliste, cette campagne de monument a-t-elle été décevante? On se posera la question dans Grand Plateau. Évidemment, on reviendra aussi sur l'énorme performance de Romain Bardet, deuxième qu'il est allé chercher son meilleur résultat sur un monument. Et son deuxième podium sur Liège après une troisième place en 2018. Les autres Français se sont aussi montrés avec deux autres tricolores dans le top 10. Aurélien Paré-Peintre, 5e, et Valentin Madouas, 7e, le champion de France, qui sera d'ailleurs avec nous pour revenir sur la course, sur son début de saison et plus généralement sur les objectifs à venir pour lui. Mais avec moi, pour parler de tout ça, un homme qui n'a jamais vraiment apprécié les classiques, Jérôme Coppel est là. Salut Jérôme!
Salut Johan, salut messieurs.
Ouais, c'était pas ton truc toi, les classiques, les monuments. Hein. T'en as pas fait beaucoup.
Ouais, non, je faisais un peu de figuration, il en faut quelques-uns quand même.
Ouais, c'est vrai. Mais t'as participé 3 fois quand même à Liège, donc tu pourras nous en parler. Celui qui va prendre des vacances bien méritées dans peu de temps, après avoir passé tous ses week-ends sur les routes, Arnaud Souk est avec nous. Salut Arnaud.
Salut Johan, salut Jérôme, salut à toutes et à tous. Ouais, les vacances dans une semaine.
Ouais, il le faut,
c'est
là,
vrai qu'on a bien donné là depuis Paris-Nice. Bon, pas autant que les cyclistes sur le vélo, mais quand même, on a fait de la route et on a pris de la pluie.
T'étais couvert surtout, hein, c'est ça?
Il faisait froid hier, je te confirme.
En tout cas, celui qui n'a jamais froid, c'est le glouton Tadej Pogacar qui a dévoré les routes de la doyenne pour aller chercher une nouvelle victoire cette saison en écœurant tout simplement la concurrence.
Tadej Pogacar, direction le bonheur, direction une nouvelle victoire ici sur la doyenne des classiques après 6h, 12 minutes et 45 secondes de course. Il se mouche avec son bras droit, l'homme qui veut cocher toutes les cages, Tadej Pogacar qui lève les deux bras et qui va pouvoir s'imposer dans quelques instants pour la deuxième fois de sa carrière. Le vainqueur de la doyenne est une immense légende du cyclisme, il s'appelle Tadej Pogacar.
Un Français va terminer en deuxième position, lui qui était déjà monté sur le podium en 2018. En troisième position, Romain Bardet qui ne va pas célébrer, mais quand même qui aura passé une sacrée journée aujourd'hui. Il aura été aux avant-postes de la course quasiment tout au long de la journée. On va suivre le sprint pour la troisième place parce que Mathieu Van Der Poel va peut-être essayer dans quelques instants d'aller chercher un nouveau podium, même si ça déborde sur le côté gauche de la route avec Dylan Teuns. On a également Paul Lapeyra qui va essayer à se mêler à cette lutte finale avec Aurélien Paré-Peintre également, mais Mathieu Van Der Poel qui semble très très fort, Mathieu Van Der Poel qui va aller la chercher cette troisième place, mais voilà l'arc-en-ciel qui n'aura pas rayonné aujourd'hui sur la course, mais qui va en tout cas se classer sur le podium, un podium magnifique. Pogacar, Bardet, Van Der Poel sur cette doyenne des classiques.
1 minute et 39 secondes donc d'avance pour Tadej Pogacar sur Romain Bardet qui, comme à son habitude, était au-dessus de tout le monde. On a très vite senti, Arnaud, que non seulement Van Der Poel n'avait pas les jambes, mais surtout que Pogacar volait sur le vélo en fait.
Alors bon, Pogacar volait sur le vélo. En même temps, quand la question lui avait été posée en conférence de presse le vendredi, on lui avait demandé est-ce que vous imaginez autre chose que la défaite. Il a dit non, j'imagine absolument pas perdre cette course. Donc vraiment, il venait de toute manière pour gagner. Mais comme à chaque fois qu'il se déplace, on va quand même juste donner cette statistique hallucinante, 7 victoires en 10 jours de course cette saison. Juste quand même rappeler que Mathieu Van Der Poel, moi j'aurais peut-être aimé le voir pouvoir rivaliser tout au long de la course, parce que on rappelle, même si ça lui a pas coûté grand chose en termes de coups de pédale, qu'il y a quand même eu une chute à un moment assez décisif de la course qui malheureusement l'a contraint à être retardé dans un groupe qui a navigué à plus de 1 minute du peloton des principaux favoris. Donc même si ça lui a pas coûté grand chose je pense en énergie, j'aurais quand même bien aimé le voir, voilà, peut-être plus aux avant-postes à ce moment-là, et il a quand même dû combler ce trou d'une minute, donc c'était peut-être pas aussi innocent que cela.
T'es surpris toi, Jérôme, du scénario de la course? Est-ce que tu t'attendais à un cavalier seul de Tadej Pogacar?
Ouais, non, je suis pas du tout surpris, hein, surtout voilà, qu'il manquait quand même Remco Evenepoel. Est-ce que ça aurait été différent s'il avait été là? Mais on sait que Pogacar, il est quand même habitué, hein, on se rappelle des Strade Bianche, il est vraiment habitué à ces grands raids. On attendait beaucoup de Van Der Poel, hein, comme a dit Arnaud. Alors c'est vrai qu'il a été gêné par sa chute, mais à mon avis, ça aurait pas changé la fin de l'histoire. Je pense pas qu'il était très très en jambes. Par contre, ce qu'on remarque, hein, depuis 2-3 années, c'est que depuis qu'ils ont modifié le parcours, la côte de la Redoute, elle est vraiment redevenue au centre de la course. C'est vrai que, comme tu l'as si gentiment dit, Johan, j'ai participé vaguement à Liège-Bastogne-Liège avec l'ancien parcours. Et la côte de la Redoute, elle était un peu escamotée. Ça montait vite, mais il n'y avait vraiment jamais d'attaque. Elle n'était pas décisive, en fait, cette côte de la Redoute. Et depuis 2-3 années, avec Evenepoel notamment, qui a attaqué deux fois là, voilà, elle redevient vraiment une pièce majeure de cette course-là. Maintenant, est-ce qu'il avait vraiment un adversaire? C'est sans Remco Evenepoel, ben voilà, je pense qu'il est peut-être un jour Vingegaard, on verra. Mais pour l'instant, Tadej Pogacar, il a pas d'adversaire à sa taille sur ce profil-là. Donc non, pas du tout surpris par son numéro qu'il a fait hier.
Arnaud, on vient de parler de Mathieu Van Der Poel. Finalement, sur l'Amstel, c'était pas qu'une alerte. Il avait vraiment plus les jambes. Il a trop donné en fait en début de saison.
Oui. Alors après, faut quand même relativiser les choses. Hein. Ça reste une troisième place. Déjà, il revient donc où? Pour faire ce sprint de la troisième place, il monte quand même sur le podium de son troisième monument cette saison. Il a gagné, on le rappelle, un Tour des Flandres, il a gagné Paris-Roubaix, il avait gagné le Grand Prix E3. Là, il fait quand même troisième de Liège-Bastogne-Liège, sachant que bon, bah, son pire résultat finalement de la saison, c'est la semaine dernière sur l'Amstel Gold Race, une 22e place. Mais on rappelle qu'il avait également fait 10e de Milan-San Remo. On rappelle aussi qu'il a couru 14 fois en cyclocross pendant l'hiver et qu'il en a gagné 13. Enfin bref, il y a un moment où je pense que Mathieu Van Der Poel, à l'arrivée, j'ai pas vu énormément de frustration après ce résultat. Je pense qu'il était assez lucide sur le fait que de toute manière, comme le disait justement Jérôme il y a quelques instants, il aurait peut-être pas été en mesure de lutter véritablement dans la Redoute avec Tadej Pogacar qui de toute manière a explosé tout le monde. Il a fait un temps complètement hallucinant dans la Redoute. Et même si Mathieu Van Der Poel a des capacités de punch qui sont connues et reconnues, je pense que ça aurait été compliqué de suivre Tadej Pogacar. Donc voilà, Mathieu Van Der Poel, relativisons, troisième, je trouve que c'est bien pour Liège-Bastogne.
Ouais, presque content d'ailleurs de cette troisième place, Mathieu Van Der Poel, qui l'a dit à l'arrivée, c'était inespéré pour lui, s'y attendait pas vu les jambes qu'il avait. Mais voilà, troisième quand même sur le podium derrière un Romain Bardet dont on va parler dans quelques instants. Ça n'en reste pas moins donc une ultra domination, encore une sur un monument. On sent quand même de la frustration hein, chez les passionnés de vélo, on la comprend évidemment. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous avez été déçu de cette campagne de classique et plus particulièrement sur les monuments? Arnaud, tu les as suivis pour nous sur RMC, malheureusement pas beaucoup de suspense. Qu'est-ce que tu penses justement? Est-ce que tu fais partie des frustrés ou est-ce que tu te dis t'es impressionné par les exploits de Mathieu Van Der Poel et de Tadej Pogacar?
Alors écoute, c'est difficile hein, derrière sa télé, ou c'est facile plutôt de faire des jugements, de ça dire, ah oui, mais alors Van Der Poel a tué le Ronde 2 à 45 bornes de l'arrivée, il a tué Paris-Roubaix à 60 bornes, Pogacar a tué les Bastogne-Liège à 34 bornes de l'arrivée, qu'est-ce que tu veux? C'est les coureurs les plus forts. Bon, j'ai la peine à être frustré, si tu veux. La seule chose que j'aurais peut-être aimé, mais ça, c'est les faits de course qui en ont décidé autrement, c'est que Wout Van Aert soit en mesure de rivaliser avec Mathieu Van Der Poel sur les Flandriennes et que Remco Evenepoel soit en mesure de rivaliser avec Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Bon, voilà, le reste, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas l'impression qu'il les ait volés, ces classiques-là. Donc, tu peux être déçu peut-être du scénario, encore une fois, il fut un temps où ce genre de course... Bah, tu t'ennuyais quand même jusque dans les 40 derniers kilomètres. Maintenant, tu t'ennuies dans les 40 derniers kilomètres.
C'est ça.
Voilà,
c'est
bon, et tout est relatif. Si t'es un petit peu admiratif, tu peux aussi saluer l'exploit du champion. Et puis, il y a de belles peignées derrière pour les accessibles, pour les places d'honneur. Donc, je vais pas dire que je me suis ennuyé. Non, honnêtement, moi, je trouvais que c'était une très, très belle campagne.
Jérôme, t'en penses quoi, toi?
Bah, je suis un peu du même avis qu'Arnaud. Hein. Moi, pour avoir fait certaines de ces classiques, même sur le vélo, des fois, tu te fais quand même chier jusque justement dans les 40 derniers kilomètres que ça déclenche. Moi, en fait, j'ai toujours un peu mon esprit ancien cycliste et en fait, je suis admiratif pas forcément du déroulement, parce qu'on voudrait voir de la bagarre jusque dans les derniers mètres et qu'on sache pas qui va gagner jusque dans les 500 derniers mètres. Mais maintenant, être capable de partir à 45, 50, 60 ou 80 kills de l'arrivée, faire les numéros qu'ils font, voilà, quand on regarde, bien sûr qu'on s'ennuie, parce que quand on voit un Pogacar qui part sur l'estradé, on sait presque que la course, elle est quasiment pliée derrière, mais quand même, il faut se rendre compte de l'effort que c'est et puis de la performance que ces mecs-là réalisent. Et moi, en fait, je reste pas... C'est pas que je m'en fous des monuments ou des autres. Pour moi, toutes les courses sont belles à regarder, que ça soit un monument ou pas. Donc, si on prend les classiques dans leur ensemble, dire l'Amstel, on a eu une super course, la Flèche Wallonne avec la météo en plus, ça a été une course incroyable, la Flèche Brabançonne. Donc, moi, j'aime bien regarder toutes les classiques, l'ensemble des classiques. Et perso, moi, je me suis régalé. J'ai vu des super courses. Alors, OK, il y en a une ou deux où il n'y a pas eu un gros spectacle, en tout cas pour la victoire. Mais derrière, il y a eu une méchante bagarre. Et juste pour revenir un peu sur Liège, et ce que tu nous as dit sur Mathieu Van Der Poel, hein, qui a fait troisième place un peu inespérée, je pense, et peut-être que quand on aura Valentin plus tard, on pourra en parler, parce que finalement, niveau route, ils ont eu un peu le même programme, mais je pense que Mathieu, s'il veut rajouter un monument, et Liège notamment, à son programme, il faudra peut-être qu'il change un peu sa préparation, parce que voilà, on l'a senti en bout de course, et peut-être qu'il faudra qu'il sacrifie quelques Flandriennes pour espérer pouvoir rivaliser avec Pogacar ou Evenepoel quand il sera de retour, quoi.
Bon, premier Pogacar, deuxième Romain Bardet, dont on va parler dans quelques instants. Mathieu Van Der Poel, troisième. Les Français qui ont quand même brillé, il y en a trois dans le top 10. Aurélien Paré-Peintre, cinquième. Et Valentin Madaud, à septième, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Valentin.
Salut, salut.
Salut Valentin.
Avec ton beau maillot de champion de France, comme ça. Jérôme le disait, tu as vécu un peu la même course que Mathieu Van Der Poel. Tu t'es accroché quand même pour rester dans le groupe qui s'est disputé le sprint de la troisième place. Comment t'as senti cette course? C'était dur. Hein.
Ouais, c'est une course qui est vraiment très difficile, surtout dans le scénario qu'on a eu avec une chute vraiment au milieu du peloton, et on était, nous, toute l'équipe, à cet endroit-là. Il y a Quentin qui tombe et puis derrière nous, on est ensemble. Donc après, on se retrouve un groupe qui a dû chasser pendant quand même très longtemps. On a monté vraiment hyper vite le triptyque One Stocco haute levée. Je pense que quand on regarde la vitesse qu'on a montée, c'est les années. Enfin voilà, moi, c'est mes records en termes de temps sur ces montées. Donc on a donné vraiment une grosse cartouche pour pouvoir rentrer devant. Et après, c'était en mode récupération pour la redoute, le maximum. Et c'est vrai que quand on est sur ces courses, on s'accroche comme on peut s'accrocher. Et c'est pas simple parce que quand on a un Tadej Pogacar en face qui fait un numéro comme ça, faut s'accrocher encore plus.
Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Du coup, tu es satisfait quand même de ce top 10 vu les circonstances de course?
Non, je suis vraiment satisfait de ce top 10. Ça reste un top 10 sur un monument. C'est vrai que nous, l'équipe, on n'était pas venu pour ça. On voulait se rapprocher du podium. Mais quand on regarde les startistes, on sait que la place sur le podium, elle est jouable à chaque fois, mais qu'il faut que tout se passe pour le mieux pour dans toutes les circonstances de course. On n'a pas la marge que peuvent avoir un Pogacar, voire même un Van Der Poel. Donc faut s'accrocher pour essayer d'obtenir ce résultat. Un top 10, c'est quand même un très beau résultat sur un monument comme Liège-Bastogne-Liège, surtout comment ça a assez couru. Et voilà, on va essayer de repartir sur des courses, sur le Dauphiné, le Tour de France, pour essayer de remporter une victoire. Mais c'est vrai que ce Liège-Bastogne-Liège, il restera quand même très difficile.
Tu le disais la semaine dernière, Valentin, après l'Amstel Gold Race aux Pays-Bas, tu m'avais dit c'était l'une des courses, peut-être même la course la plus difficile de l'année. Tu termines sixième. On avait ce petit débat tout à l'heure, enfin, ou en tout cas on se demandait si cette campagne de classique, elle était décevante ou pas. Toi, t'en penses quoi? Parce que tu l'as bien vécu de l'intérieur quand même, entre l'E3, à travers la Flandre, le Tour des Flandres, l'Amstel, la Flèche et Liège-Bastogne-Liège.
Pour moi, elle n'a pas été ennuyante, elle a été plutôt même très bonne. Enfin voilà, en termes de spectacle, parce que je voyais pas beaucoup le premier à chaque fois. Il partait tellement tôt que c'était plus compliqué. Mais derrière, j'ai trouvé qu'il y avait une énorme homogénéité dans le peloton. Il y avait souvent une vingtaine de coureurs qui se jouaient les victoires, donc ça mettait vraiment, les places sur le podium, pardon, ça mettait vraiment des scénarios de course qui étaient à chaque fois différents et vraiment cool à pouvoir courir. Après, c'est vrai que pour la victoire, on se doutait à chaque fois, dans les briefings, on parlait de des ogres du peloton qui remportent toutes les courses. Mais comme à l'Amstel, on se dit c'est possible qu'ils se fassent piéger tactiquement parlant. Malheureusement, des chutes qui peuvent bloquer la course comme à Liège. Tous ces petits scénarios, faut quand même les avoir en tête, parce que c'est peut-être notre seul espoir de pouvoir remporter une de ces grandes classiques. Donc on essaie de repartir à zéro sur chaque classique, essayer de viser la victoire pour l'équipe. Et bon, malheureusement, on n'a pas eu d'opportunité, mais c'est vrai que voilà, c'était pour moi une campagne de classique très intéressante.
Jérôme, tu as une question pour Valentin Madouas ?
Ouais, j'avais une petite question. On a vu, alors on n'a pas trop parlé de la Flèche Wallonne et des conditions météo vraiment exécrables que vous avez eues. Est-ce que tu as senti au départ de Liège, parce que finalement, c'est que quelques jours plus tard, que vraiment ça avait encore laissé des traces ? On sait que quand vous avez si froid, j'ai vu une photo de toi à l'arrivée où on avait l'impression que tu avais pris 10 ans en une journée. Est-ce qu'au départ, ça laisse des traces et que des coureurs, notamment comme Van Der Poel par exemple ou Pogacar, qui n'ont pas pris part à cette course, peut-être qu'ils avaient un petit avantage par rapport à ça, non ?
C'est difficile à dire. Je pense que chaque organisme a répondu différemment. Il y a aussi toute la concentration mentale de cette course, parce que quand on est sous la pluie, c'est vrai que mentalement, c'est vraiment très difficile. Il faut faire attention à tout. Il faut essayer de se couvrir, essayer de se réchauffer. En fait, on ne pense pas qu'à la course, on pense à notre santé avant tout et à notre trajectoire et puis à donner le maximum sur le vélo. Et c'est vrai que des fois, la retombée de cette course, elle peut être hyper importante. Enfin, la retombée mentale, elle peut être très, très forte. Et ce qui fait qu'il y a certains coureurs, je pense, qui étaient fatigués à Liège. Après, nous, on a essayé de travailler vraiment à rebasculer sur Liège dès le lendemain de la Flèche. On a voulu faire la roco tous ensemble pour pouvoir rebasculer mentalement sur le monument. Et je pense que c'était une bonne chose. Et on était... Moi, je pense que ça ne m'avait pas forcément impacté le jour de la course. Je me sentais même mieux qu'à la Flèche. Mais après, ça joue vraiment sur des détails et sur comment le coureur a eu froid sur la Flèche Wallonne.
Et on a vu que ça a compté, hein, notamment même pour le vainqueur de la Flèche Wallonne, Steven Williams, qui a craqué très tôt sur Liège. D'ailleurs, on fera le portrait de la semaine de Steven Williams, le gallois, avec Roxane Lacusca. Arnaud, une question ?
Ouais, Valentin, je me suis posé la question hier pendant la course, parce que mis à part effectivement cette chute qui a eu lieu, dans laquelle d'ailleurs toi t'étais vraiment aux premières loges, on a eu le sentiment quand même qu'il y avait moins de chutes que ce qu'on a pu voir au début du mois d'avril ou à la fin du mois de mars. Est-ce que c'est vraiment un hasard ou est-ce qu'il y a quelque chose, même inconscient, qui a peut-être changé dans le peloton ?
Bon, je pense que c'est difficile à dire. C'est vrai que ça... Pour moi, ça fait partie du vélo. Pour moi, les chutes, il y en aura toujours, que ce soit sur les grandes courses. Là où il faut que les instances travaillent, c'est plus sur les conséquences des chutes. Quand on voit les casses qu'il y a sur les coureurs. Avant, il y avait beaucoup de chutes, mais là, maintenant, ce que je remarque, c'est que c'est des fractures qui sont très graves. Avant, on avait le droit à une vertèbre. Maintenant, sur les grosses chutes, c'est 5-6 vertèbres. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait un gros problème au niveau d'un coureur pour faire changer les choses. Et je pense que tout le monde a compris. Dans le vélo, on aura toujours des chutes et il y en aura toute la vie. Et c'est comme ça. Il faut juste éviter que les conséquences soient dramatiques. Et je pense qu'il y a pas mal de petites choses à faire. Et c'est ça qui est hyper intéressant.
Bon, Valentin, t'en as terminé du coup avec cette saison de classique. Hein. Je rappelle tes résultats, 7e sur Liège donc, 15e sur la Flèche, dans des conditions extrêmes, on en a parlé, 6e sur l'Amstel, 16e sur le Tour des Flandres, c'est peut-être là où t'as le plus de regrets ? T'en attendais un petit peu plus ?
Oui, j'en attendais même beaucoup plus. C'est vrai que j'étais venu là pour essayer de faire une grande performance.
On rappelle que t'as déjà fini 3e hein, sur le Tour des Flandres.
Et non, j'étais déçu le jour de la course. Ça répondait pas du tout comme je le voulais. J'étais hyper bien pendant toute la partie. Il a commencé à pleuvoir et j'ai eu comme une sensation de grosses jambes. Je n'arrivais plus à forcer. Et c'est vrai que j'ai vachement subi la pluie sur cette course. Et puis quand on voit qu'on est par groupe de 3 après le Kopenberg, tout le monde donne ce qu'il a donné. Et puis ça joue sur des détails parce que mine de rien, je suis quasiment... pour la place qui arrive dans le groupe qui arrive pour la place de 2 dans le vieux Coirmont, je lâche vraiment juste tout en haut, donc ça joue à des détails cette course. Et je sais que j'ai fait quelques erreurs et aussi les gens m'étaient tout simplement pas présente ce jour-là, comme je voulais qu'elle le soit. Donc oui, forcément déçu. Après, voilà, ça fait partie du vélo. On n'a pas toujours la réussite qu'on veut avoir et on n'a pas toujours les sensations qu'on veut avoir. Il y a des adversaires en face qui travaillent très dur aussi et faut pouvoir travailler mieux et essayer d'être encore plus performant pour les prochaines années sur ces classiques.
Ouais, c'est ça, ce sera pour l'année prochaine. Valentin, t'inquiète pas. La suite on espère évidemment tous. La suite des événements pour toi cette saison, t'attends évidemment pour les championnats de France. T'as envie de la garder quand même, cette tunique bleu, blanc, rouge.
Bah, c'est vrai qu'elle est belle. On va essayer de faire une grosse course. Moi, perso, ouais, c'est vrai que je vise bien cette partie de saison avec le championnat, le Tour de France. J'espère pouvoir être sélectionné pour les JO. Donc, ça va être tout ce gros bloc qui va être hyper important et qui va déjà commencer dès la préparation, dès le stage qui commence dans 2 semaines. Donc ça va être une partie de saison très chargée où il va falloir être fort dans la tête et essayer de pouvoir bien enchaîner toutes les performances pour pouvoir remporter, en tout cas j'espère, le championnat de France et une étape sur le Tour. Et après, on verra bien comment tout ça va se passer.
J'allais y venir justement sur le Tour de France parce que tu avais terminé deuxième il y a 2 étés de cela à Foix, si je me souviens bien, dans une chaleur écrasante ce jour-là. T'as visé des étapes là déjà sur ce Tour de France. Est-ce que finalement voilà, c'est pas quelque chose qui... On connaît ton énorme potentiel, Valentin, et est-ce que t'es pas un peu frustré certes, t'as le maillot de champion de France, mais de pas avoir cette victoire qui te placerait vraiment dans encore plus dans le cœur des Français, on va dire.
Non, c'est vrai que oui, c'est pour moi gagner sur le Tour, c'est vraiment un objectif de carrière, comme beaucoup de coureurs d'ailleurs, mais je le fixe vraiment quasi numéro 1. C'est vraiment quelque chose de, je pense, magnifique à vivre, et voilà, c'est vraiment un objectif pour cette année, pour mes dernières années aussi, mais pour mes prochaines également. Et je pense que j'en suis capable. Quand on finit deuxième, quatrième, cinquième d'étape, c'est qu'on passe jamais très très loin. Et je vais tout faire pour gagner une place et être premier d'une étape sur le Tour de France cette année. Mais voilà, il y a une adversité qui est très forte. Il va falloir, comme je dis, travailler très bien, très dur avec toute l'équipe pour pouvoir réussir à atteindre mon meilleur niveau et essayer de gagner cette étape qui me fait rêver.
Jérôme Coppel, tu avais une question pour Valentin Madouas.
Ouais, j'avais deux petites questions sur la suite. Tu as dit que tu partais en stage. On sait que tu as fait des stages en altitude. Ça sera le cas aussi là pour préparer justement cet enchaînement championnat, Tour et JO. Et puis comment, là, ma deuxième question, c'est comment tu vas gérer le Tour? On sait que tu as déjà fait top 10 du général du Tour. Mais là, est-ce que tu vas repartir, entre guillemets, alors bien sûr pour aider David notamment, mais est-ce que tu vas aussi jouer, t'accrocher toutes les étapes pour essayer de faire un classement, ou au contraire te relever un peu sur certaines étapes parce que tu auras en tête les JO et que ça va être une très longue période où il faudra essayer de garder un plateau de forme sur assez longtemps, quoi.
Ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment... ce sera le mot d'ordre sur ce Tour de France, c'est d'essayer de trouver un bon compromis. Faut pas oublier que voilà, David a fini quatrième du Tour. Moi, je serai là pour l'épauler. Et je suis même persuadé qu'il sera très performant sur le Tour. On voit qu'il monte en pression. Il a pas la réussite qu'il doit avoir. Et je sais que ça va tourner pour le Tour pour lui. Donc, je pense qu'on va vivre une très belle aventure. Après, tout ça, ce sera à voir entre Thomas et l'équipe. Savoir comment on organise tout ça, ce sera dans un dialogue. Moi, je serai là et j'accepterai ce qu'on me dit de faire. C'est pas, voilà, je sais que je vais avoir mon mot à dire, mon mot. J'ai mon idée derrière la tête, forcément. Mais l'objectif numéro 1 perso, c'est de gagner une victoire sur le Tour et d'aider David à faire la meilleure performance possible sur le classement général. Après, sur certaines étapes où il n'y aura pas forcément d'intérêt pour moi à aller jouer et aller frotter pour rien, c'est vrai que on va essayer de se libérer de cette pression du Tour sur quelques étapes, forcément, où mon rôle sera pas primordial auprès de David et qui me permettra de garder surtout de la fraîcheur mentale et physique pour pouvoir essayer de bien enchaîner ce pic de forme jusqu'aux Jeux Olympiques.
Thomas vous a donné une date pour la sélection finale ou...
Non, Thomas l'a eu au téléphone régulièrement, mais il a dit voilà, la sélection lui la donnera il la donnera au mois de juin. Après, en interne, on va voir si voilà, on va avoir des échanges ensemble et puis il va nous dire si c'est plus oui que non, ce qui permettra de pouvoir axer mieux la préparation.
Tiens, avant de te laisser tranquille, Valentin, tout de suite, dans pas longtemps, on va avoir un petit débat sur Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, que tu connais bien, du coup, vu que tu les affrontes très souvent dans la saison. Allez, mouille-toi. Pour toi, c'est qui le plus fort entre les deux? Qui va remporter le plus de monuments, Pogacar ou Van Der Poel?
Ah, c'est une grosse question. Ouais. Tu vois, je dirais plus Van Der Poel, parce que Van Der Poel, pour moi, il a trois monuments qu'il peut remporter chaque année, que ce soit Milan, Tour des Flandres ou Roubaix. Après, franchement, c'est hyper compliqué. Les deux, ça se trouve, à la fin de leur carrière, ils auront le même nombre de monuments et puis il n'y aura pas de débat. Mais c'est des coureurs qui sont au top niveau mondial. Même depuis quelques années, on n'a pas de coureurs comme cela. Et c'est vrai qu'ils font rêver beaucoup de jeunes. Ils donnent l'envie à beaucoup de coureurs de faire du vélo. Il faut savoir en profiter. C'est vrai que pour nous, on n'est peut-être pas tombé dans la bonne génération, mais c'est comme ça, il y aura toujours des générations plus compliquées que d'autres. Mais il faut savoir profiter aussi d'être avec des coureurs d'exception.
Ouais, t'es raccord avec ton coéquipier, hein, Stéphane Cugnarno, qui avait dit je pourrais raconter à mes enfants que j'ai couru avec Mathieu Van Der Poel,
le fameux
Mathieu Van Der Poel. Donc, oui, voilà.
Exactement.
De l'admiration évidemment pour ces deux immenses champions, de l'admiration aussi pour toi quand même avec ce maillot bleu, blanc, rouge qu'on te souhaite de garder durant toute la saison. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup,
Valentin.
Merci,
d'avoir Valentin. Participé à Grand Plateau. C'est pas la première fois que tu participes, hein. Tu vas prendre peut-être un petit chèque, tu vas devenir consultant bientôt.
peut-être.
On est toujours ravis de t'avoir et tu reviens quand tu veux, évidemment. T'es bienvenu, c'est la maison pour toi. Salut Valentin.
Merci.
Bon, les gars, Valentin a donc amorcé le débat.
Oui.
Et je vais vous poser la question. Qui est le plus grand entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar? Valentin nous a dit que Mathieu Van Der Poel avait plus de chances de remporter le plus de monuments parce qu'il peut en remporter trois. Mais bon, j'imagine que Tadej Pogacar a envie d'en remporter énormément et de participer à tous les monuments, Arnaud.
Moi, je pense que... alors, je ne suis pas d'accord avec Valentin, du coup. Bon, c'est dommage, on aurait pu en débattre. Même si la question que tu lui posais, c'était qui va gagner le plus grand nombre de monuments. Et c'est vrai que c'est difficile à dire. Après, moi, j'ai quand même le sentiment que Tadej Pogacar peut s'imposer sur tous les monuments. C'est-à-dire, il pourra s'imposer sur Paris-Roubaix, le jour où il viendra sur Paris-Roubaix. Il peut gagner Milan-San Remo, la preuve, il a été sur le podium il y a quelques semaines. Je pense, en revanche, que ça sera beaucoup plus compliqué pour Mathieu Van Der Poel de s'imposer, par exemple, sur le Tour de Lombardie et, dans une moindre mesure, sur Liège-Bastogne-Liège. Donc, pour moi, Pogacar reste un coureur plus complet et je pense que s'il y en a un qui doit ne serait-ce que chatouiller les chevilles du cannibale Eddy Merckx, c'est plutôt Tadej Pogacar que Mathieu Van Der Poel, que ce soit en termes de monuments et que ce soit en termes de panoplie, on va dire, je sais pas ce que t'en penses Jérôme, de panoplie globale du cycliste.
Je suis d'accord avec toi, je suis aussi d'accord avec Valentin parce qu'au terme de nombre de monuments, on va dire, pour moi c'est possible qu'ils arrivent plus ou moins à égalité à la fin, mais en tout cas Mathieu il a peut-être encore plus d'opportunités que Tadej d'en gagner toutes les années. Par contre, si on parle d'aller gagner tous les monuments, on va dire techniquement parlant, Pogacar sur une course comme Milan-San Remo ou Paris-Roubaix, ça paraît à sa portée. Alors, bien sûr, les aléas de course, etc. Mais ça paraît sur le papier faisable. Pour Mathieu, bien sûr, le Tour des Liège-Bastogne-Liège, tu fais troisième de Liège. Ça veut bien dire que potentiellement, tu peux le gagner. On en a parlé un petit peu. Peut-être que s'il change sa prépa, c'est un des monuments qu'il pourrait gagner. Et là où je rejoins Arnaud, c'est que sur un Tour de Lombardie, en fin de saison, ça me paraît quand même un petit peu compliqué pour Mathieu. À voir, mais en tout cas, on est... c'est vraiment des questions et des problèmes de riches qu'on est en train de se poser, à savoir lequel des deux va réussir à gagner tous les monuments d'un coup. C'est des questions qu'on se posait pas trop. On a eu ça un peu avec Philippe Gilbert il y a quelques années. On se disait qu'il allait pouvoir tous les gagner. Mais là, on est face à deux phénomènes. Et encore, on parle beaucoup d'eux là. On oublie un petit peu Evenepoel ou Van Aert, par exemple, parce qu'ils ont été blessés. Mais on est face à une génération, comme a dit Valentin, qui est exceptionnelle. Et puis moi, ça me fait penser un peu, il a dit, Valentin, on n'est pas tombé dans... on ne tombe pas toujours dans les bonnes générations. Moi, ça me fait toujours penser à Andy Murray en tennis, où tu te dis, purée, il aurait gagné je ne sais pas combien de grands chelems s'il n'était pas tombé sur des Federer, des Nadal et des Djokovic. Mais on prend du plaisir à regarder du tennis. Pour moi, c'est pareil pour le vélo. Je suis vraiment admiratif de ces deux champions. Mais en fin de compte, moi, je pense que ça sera Poggi qui aura le plus de monuments et qui peut-être réussira à tous les remporter d'ailleurs.
Bah tiens, il y en a un qui est d'accord avec toi, c'est Mauro Gianetti, le manager général du AE. Quand on lui demande si Poggi est le plus grand, justement, c'était à ton micro, Arnaud.
Mais je crois que oui, parce que c'est quand même le seul coureur qui peut être vraiment concrète dans tous les types de courses, soit sur les pavés, les grands tours, les Ardennaises. C'est vraiment le coureur complet, le coureur qui fait rêver tout le monde.
Bon. Pas très objectif non plus, Gianetti.
Mais il a quand même le mérite de toujours se mouiller, Mauro Gianetti. Et je pense que s'il le dit, c'est qu'il le pense. Et je pense que s'il le dit aussi, c'est parce que Tadej Pogacar, lui, très clairement, lui demande d'aller s'aligner sur Paris-Roubaix. Alors, Mauro Gianetti lui dit, on va voir, mais dans 2-3 ans, vas-y. Déjà, tu vas faire ton doublé, tu vas tenter ton doublé Giro Tour de France. C'est déjà un premier objectif. Et Paris-Roubaix, ça sera pour plus tard. Mais je reviens à cette conférence de presse qui était très intéressante, vraiment, vendredi. Parfois, c'est un petit peu plat les conférences de presse, mais là c'était pas le cas avec Tadej Pogacar juste avant Liège-Bastogne-Liège, où on lui a clairement posé la question, les 5 monuments, t'y penses? Il a dit je crois que it's pretty clear, c'est assez clair, je veux tout disputer et surtout je veux gagner le plus possible. C'est donc ça. Voilà, en gros, il ira sur Paris-Roubaix et s'il va sur Paris-Roubaix, il essaiera de jouer la victoire.
Je pense que Gianetti doit pas s'amuser quand même tous les jours non plus à gérer Tadej Pogacar, parce que lui il veut faire toutes les courses, il est capable de toutes les gagner, il veut aller partout et en plus il s'amuse. On voit vraiment qu'il prend du plaisir à faire du vélo, qu'il s'amuse. Bien sûr, quand tu joues la victoire à chaque fois, c'est un peu plus facile de s'amuser, mais il doit lui dire toutes les années, allez, moi j'ai envie d'aller faire Roubaix, j'ai envie d'aller faire ci. Puis l'équipe, elles ont aussi des intérêts, on va dire, avec les sponsors, etc. S'il va faire Roubaix, il se pète, il ne fait pas le tour. Voilà, c'est toujours la bonne balance à trouver pour Gianetti et son équipe. Donc voilà, je pense qu'ils doivent quand même lui serrer le frein à main un paquet de fois, mais à un moment donné, il va falloir qu'il lâche tout ça et puis que Poggi puisse aller se frotter à Roubaix notamment.
Bon, voilà. En tout cas, c'est la génération dorée du vélo qu'on est en train de vivre et qu'on commente tous les week-ends sur RMC avec toi, Arnaud, et on va en profiter jusqu'au bout. On va passer tout de suite au baromètre des Français, quand même.
RMC, le baromètre des Français.
Et oui, et on va commencer par Romain Bardet, parce que Romain Bardet, il a été exceptionnel pour aller chercher cette deuxième place de la doyenne. Peut-être une de ses plus belles performances en carrière, quand même si c'est qu'une deuxième place, mais c'est derrière Tadej Pogacar. Arnaud, t'as rencontré Romain juste à l'arrivée. Il y avait quand même énormément d'émotions.
Oui, il y avait de l'émotion, Johan, je te confirme. Voilà, vraiment, on l'a vu, hein, les yeux rougis par l'émotion. Il s'est vraiment énormément battu pour cette deuxième place, parce qu'il a tenu comme il a pu dans la côte de la Redoute au coup de boutoir de Tadej Pogacar. Dans un premier temps, il n'a pas vraiment réussi à suivre. Il n'a notamment pas réussi à suivre le rythme ni de Pogacar ni de Carapaz. Il a réussi à s'accrocher, on va dire, à ce gros peloton. Et puis après, il y a un contre qui est parti avec notamment deux autres Français. Il y avait Benoît Cosnefroy notamment qui était dans ce groupe. Il y avait Ben Healy également, l'Irlandais. Et puis, il a réussi tout seul, finalement, à en chasse-patate, à aller rallier l'arrivée avec une 40 de retard sur Tadej Pogacar. Non, franchement, c'est une sacrée journée quand même qu'a vécu Romain Bardet. Mais il n'y a personne mieux que lui qui peut nous le dire, Romain Bardet. On l'écoute.
Honnêtement, c'est une victoire pour moi. Voilà, ce ne sera pas sur le palmarès, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez vu les loustiques avec qui j'ai affaire, donc non, c'est bon. C'est un de mes tout meilleurs états de carrière. J'ai eu beaucoup d'émotions parce que je me pose beaucoup de questions sur est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Je laisse mon fils de son genre parent pour faire des fois entre 7e et 12e des courses. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Et voilà, des jours comme ça fait plaisir aussi et ça remet un peu de baume au cœur.
C'est quelque chose d'être entre Pogacar et Van Der Poel sur un podium.
Mais oui. Alors, on lui met une petite note ou pas quand même?
Bien sûr, on va lui mettre une note.
Je lui mets 9 sur 10 et je pense que Jérôme aussi va lui mettre une bonne note. Et je pense que Jérôme est sensible au discours de Romain Bardet. Parce que toi, Jérôme, il y a un moment où tu en as eu un petit peu ras-le-bol aussi du vélo, enfin de tout ça, d'être parti loin des tiens. Quoi.
Oui, c'est ça. Bah, Romain le dit dans son interview. Il part plus de 200 jours, 250 jours par an quand on a des enfants en bas âge. Il prend de l'âge. Romain, il a une longévité incroyable. C'est pas facile. Au bout d'un moment, vous savez, quand vous êtes jeune, vous passez pro, c'est un peu votre rêve. Vous êtes tout content, vous êtes dans les aéroports, prenez l'avion, vous allez à droite, à gauche sur les courses. Et puis au bout d'un moment, il y a quand même une forme de lassitude qui s'installe, tous les sacrifices qu'il faut faire. Alors partir loin de la famille, faire attention à la nourriture, les entraînements, par tous les temps, etc. C'est vraiment mentalement très dur. Et quand on a des enfants, il est de plus en plus dur de partir. Et Romain, on sent que voilà, ça, déjà l'année dernière, sur cette question de retraite. Alors d'un côté, je pense que ça libère un peu parce qu'il se dit voilà, le gros de ma carrière est derrière moi.
Moi, ça me fait penser à quelque chose. Arnaud, tu vas me dire si tu es d'accord, mais ça me fait penser un petit peu à ce qu'a vécu Thibaut Pinot, en fait, l'année dernière, et qui a annoncé sa retraite, et ça l'a un petit peu libéré. Alors, Romain Bardet ne l'a pas annoncé officiellement, mais on a l'impression quand même qu'il a couru sans se poser de questions, quoi.
Oui, mais j'ai envie de dire, en fait, comme c'est le cas depuis le début de sa carrière, certes, Romain Bardet n'a pas un nombre de victoires incroyables, mais il a quand même des belles victoires. Il a des victoires sur le Tour de France, il a une victoire sur le Tour d'Espagne. Je voudrais juste vous rappeler cette statistique qui est absolument hallucinante, parce que je me suis amusé à regarder le nombre de podiums et je suis tombé sur une statistique absolument édifiante. Hier, c'était la 50e fois que Romain Bardet montait sur la deuxième marche du podium depuis le début de sa carrière professionnelle.
Ah oui, quand même.
La 50e fois. Sur ces 50 fois, il y a étape du Tour de France, il y a étape du Tour d'Espagne, il y a les championnats du monde à Innsbruck en 2018, il y a les Strade Bianche, il y a le Giro d'Emilia. Enfin bref, il y a quand même des courses assez incroyables. Et il monte encore une fois sur la deuxième marche du podium, cette fois-ci sur un monument. Je trouve qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre que Thibaut Pinot. Romain Bardet me semble quand même beaucoup plus cadré, voilà, beaucoup plus réfléchi, je veux dire beaucoup plus peut-être robotique et moins humain, c'est pas ça le vrai
romantique
terme.
Romantique presque.
Mais voilà, un petit peu moins romantique, exactement, sur le vélo. Et moi, Romain Bardet, je pense qu'il pourra continuer à être performant. Et parce que aussi, il le veut être performant. Là où Thibaut Pinot ne voulait plus être performant, et je suis désolé, mais par exemple, je veux pas raconter de bêtises, je vais pas me faire des amis s'ils nous écoutent, mais je crois pas que Thibaut Pinot soit allé une seule fois se frotter à Liège-Bastogne-Liège.
Ah, je suis pas sûr.
Ni à la Flèche Wallonne.
Je suis pas sûr.
Voilà. Bah, Romain Bardet, il y va très régulièrement.
Il y a un truc qui est très intéressant dans ce que tu dis, Arnaud, c'est que la différence, par exemple, entre Romain Bardet et Thibaut Pinot, alors Romain est moins spectaculaire, on va dire, que Thibaut Pinot dans sa manière de courir, etc. Mais pour moi, par exemple, intrinsèquement, je suis persuadé que Thibaut Pinot est un plus gros moteur, si on parle comme ça, un plus gros moteur que Romain Bardet. Mais Romain l'a optimisé à 110%. Ouais. Tout que ça soit nutrition, stage en altitude, il a fait tous les sacrifices possibles, il aura vraiment fait le max qu'il aurait pu faire avec la taille de son moteur, on va dire. Et il y en a certains, alors peut-être pas Thibaut, mais d'autres personnes que je connais, qui ont des gros moteurs et qui ne les ont pas optimisés à 100%. Au final, si tu as 200 chevaux, mais que tu t'en sers que de 100, bah autant avoir un moteur à 150 chevaux et te servir de tes 150 chevaux. Et Romain, c'est typiquement ça. Et c'est le mec, tu as parlé des deuxièmes places, Arnaud, c'est le mec qui passe jamais au travers d'un objectif. Il est constant. Liège-Bastogne-Liège, il l'a fait 9 fois. Sa plus mauvaise place, c'est 21e. Et sa première participation, c'est en 2013. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la régularité du mec. Et que ça soit sur le Tour.
Oui, sur le Tour aussi, sur les classements généraux, c'est incroyable.
Il est toujours là. Quand il passe au travers, il va faire 10e. Putain, moi, j'aurais aimé passer au travers et faire 10e de course comme ça. Putain, c'est complètement fou. On ne se rend pas compte du niveau physique qu'il faut avoir et mental. Il faut être là du premier jour de stage, quand ta saison commence, quand tu commences à mettre tes courses sur ton calendrier, jusqu'à la dernière course. Et il est là toute l'année. Et ça, je lui tire mon chapeau parce que j'ai tenu une dizaine d'années, pas à son niveau. Et je peux le comprendre qu'il commence à en avoir plein les pattes parce que mentalement, c'est ultra difficile. Ouais.
Tiens, tu lui mets quelle note du coup, toi, Jérôme, sur 10?
Ouais, un très très bon 9 pour moi. Ouais. Je ne peux pas dire ce qu'il n'a pas la victoire, mais sur sa manière de courir et tout, ça vaudrait 10, 9 juste parce qu'il n'a pas réussi à gagner malheureusement.
Moi, je lui mets 10 parce que c'est quand même Pogacar qui arrive devant lui. Donc voilà, je lui mets quand même 10 à Romain Bardet qui nous a fait vibrer du coup sur la doyenne. Autre Français, tiens, qu'on va noter, c'est Aurélien Paré-Peintre, un cinquième vainqueur également de la dernière étape du Tour des Alpes. Hein, il a fait le voyage d'Italie en Belgique. Ouais, c'est ça, exactement. Comme Romain, vous lui donnez quelle note, Arnaud ?
Bah, nécessairement moins que Romain, et puis on l'a vu quand même un petit peu moins à l'œuvre hier que Romain, mais c'est forcément une bonne note. Hein. Tu le dis, il termine 5e de Liège-Bastogne-Liège, c'est quand même tout sauf dégueulasse. Allez, 7 7 pour Aurélien Paré-Peintre, voilà, qui me semble monter en puissance. Et c'est pareil, je lui souhaite, on a pu le souhaiter à Valentin, de pouvoir éventuellement lutter pour une victoire sur le prochain Tour de France, si tant est qu'il le fasse, parce qu'il va surtout faire le Giro dans un premier temps. Mais on espère qu'il pourra être à la lutte pour gagner une étape, parce qu'il le mériterait lui aussi, Jérôme, je ne sais pas ce que tu en penses.
Bien sûr qu'il mériterait. À niveau note, je trouve un peu dur. Moi, je mettrais 8,5. Déjà, il gagne un point parce que c'est un Haut-Savoyard comme moi, donc déjà, il a un point de plus. Non, surtout parce qu'en fait, lui, il a crevé au pied de la roche au faucon, hein, Aurélien. Plus, ouais. Donc, quand tu crèves à ce moment-là, que tu es capable de revenir et que tu arrives encore à aller sprinter pour faire cinquième, ça veut dire que les jambes, autant au début du Tour des Alpes, j'étais un peu inquiet. Bien sûr, il gagne la dernière étape, donc ça rassure un peu tout, mais j'étais quand même pas ultra confiant pour lui au départ de Liège, quand j'ai vu, malgré sa victoire, la semaine qu'il avait fait là-bas. Et là, crever au pied de la roche au faucon, revenir et aller faire cinquième, ouais, pour moi, c'est un bon 8,5 quand même.
Mais tiens, rapidement, on va parler de ces deux autres compères chez Decathlon. Paul Lapeyra, 11e, quand même.
C'est bien. Franchement, moi, je suis super content pour lui parce qu'on en parle toutes les semaines, depuis 3 semaines, de Paul Lapeyra.
T'as été dur avec lui, je te rappelle.
Et on en parle en bien. Hein.
T'as été dur avec lui.
Non, j'ai pas été dur, non. C'est juste que j'attendais, après sa victoire sur le Tour du Pays Basque, qu'il confirme. Et je trouve qu'il l'a fait sur l'Amstel Gold Race. Et là, franchement, se classer 11e d'une classique qui est quand même, a priori, pas trop faite pour lui, avec 400 mètres de dénivelé positif. Moi, je dis chapeau à Paul Lapeyra, et c'est pareil, là, je pense qu'on tient un coureur qui devrait être pas loin de rivaliser pour des très très belles victoires côté français dans les mois à venir. Allez, je vais lui mettre un 7 sur 10. Jérôme ?
Ouais, ça sera la même note pour moi. Et je pense que là, on a vraiment peut-être le futur coureur français de ce type de course-là. Je pense qu'il ne sait pas trop encore jusqu'où il peut aller, mais il faut qu'il coche ces courses-là, parce que 5e de l'Amstel, 11e à Liège pour ses premières participations. Franchement, chapeau, sachant tout ce qu'il a déjà fait avant, avec ses 3 victoires avant, un peu plus tôt dans la saison. Donc voilà, je crois qu'on tient une sacrée pépite là.
Et enfin, juste Benoît Cosnefroy, rapidement 16e, lui, 4e de la Flèche Wallonne, 16e de l'Amstel. Il a gagné la Flèche Brabançonne, quand même, belle saison de classique pour Cosnefroy, Arnaud.
Oui, belle saison de classique. Après, voilà, encore une
t'attendais
fois.
Attendez mieux.
Je ne sais pas si ce n'est pas son meilleur résultat sur les Blastoniège, d'ailleurs. Je dis peut-être une bêtise, mais faudra vérifier. Mais à mon avis, c'est son meilleur résultat. Mais ça reste quand même un petit peu, je trouve, décevant pour Benoît Cosnefroy. Enfin, à mon sens, hein. Non, ce n'est pas décevant pour lui, mais en tout cas, moi, c'est décevant pour moi.
Ouais, voilà,
de mon point de vue.
J'attendais un petit peu mieux
de lui. Mais allez, si je dois juger sur l'ensemble, on va dire, de cette campagne de classique, 4 classiques, 2 top 10, une victoire, allez, tu mets un bon 7,5 sur 10 quand même à Benoît Cosnefroy.
Jérôme, t'es d'accord avec Arnaud ?
Ouais, c'est 7 sur 10 aussi, je suis d'accord. Sa saison globalement est très bonne. Après, sur la Flèche Wallonne, on sait que c'est vraiment la course qui lui convient parfaitement. Sur Liège, il était là, mais on l'a senti un peu limite quand même. Donc, il n'a pas été, il n'était pas en mesure de vraiment peser sur la course. Une course qui lui plaît, hein, qui veut absolument aller gagner. Donc, je pense qu'il a encore un petit peu de travail à faire pour aller jouer la gagne là-dessus. Il est sur le bon chemin, mais voilà, là, sur cette édition-là, un peu comme Arnaud, je suis un tout petit peu déçu, même s'il nous a fait une superbe Flèche Brabançonne et Flèche Wallonne avant. Donc voilà, sa campagne des classiques est quand même très très réussie. Ouais.
Et je vous confirme que c'est sa meilleure place sur Liège-Bastogne-Liège.
Et il y avait du monde, hein, chez Decathlon et G2R, la mondiale, hein, dans ce groupe pour le sprint de la 3e place aussi. Ça peut expliquer pourquoi Cosnefroy est 16e, hein, avec Paul Lapeyra et Paré-Peintre.
Je suis un peu dur quand je dis ça, mais
toujours.
Mais même lui le reconnaît, voilà, oui. C'est vrai que c'est une course qui devrait lui convenir et qui ne lui a jamais finalement convenu d'un point de vue mathématique, d'un point de vue comptable sur le résultat, quoi.
Non, mais niveau français en général, sur les classiques, quand même, on a quand même été servi. Hein. La Flèche, on a 11 Français dans les 25 premiers. Là, on en a 6 dans le top 20. Quand même, on va mettre une petite mention rapide à Romain Grégoire, quand même, qui découvre aussi ses classiques et qui a quand même fait une sacrée campagne. Donc, lui, on savait que c'était des courses qui allaient lui convenir, mais il a quand même bien marqué les esprits. Je trouve, en tout cas, mon esprit à moi, le mien, il m'a assez bluffé quand même.
Ouais, les Français ont brillé, mais ils sont tombés sur des monstres avec Mathieu Van Der Poel et donc Tadej Pogacar qui s'est imposé sur ce Liège-Bastogne-Liège. On a fait le tour, les amis.
Oui,
fin des classiques
déjà
maintenant pour toi, Arnaud. C'est vraiment pas mal. On va passer au Giro dans pas longtemps. Tu seras à la présentation d'ailleurs la semaine prochaine. J'imagine qu'on va parler de Pogacar.
Probablement, oui. Alors, Pogacar, c'est vraiment la voie royale hein, pour lui, parce que quand tu regardes un petit peu les partants annoncés, bon, on va avoir Romain Bardet, qui, pour moi, peut jouer un podium au classement général. On va avoir Geraint Thomas, qui a terminé deuxième l'an passé, qui s'était fait doubler par Primoz Roglic sur le chrono. On va avoir également notre ami Sian Heijtenbroeks. Et on aura Nairo Quintana, qui... je suis curieux de voir, 10 ans après sa victoire, ce qu'il va nous donner Nairo Quintana. Mais je crois que pour Pogacar, ça sera quand même tapis rouge. Et vraiment, moi, je souhaite voir Romain Bardet à la lutte pour un podium sur le classement général. Ça confirmerait quand même tout le bien qu'on a dit de lui il y a quelques minutes.
Et on se rappelle la frustration quand Jay Hindley s'est imposé sur le Giro. Romain Bardet était là et faisait partie peut-être des meilleurs coureurs sur cette édition. C'était il y a 2-3 ans. Et malheureusement, il avait dû abandonner Romain. Merci Arnaud d'avoir été avec nous pour ce grand plateau. Merci Jérôme. On te retrouve très vite, mon Jérôme. Évidemment.
Yes, merci messieurs, merci beaucoup.
Allez, passez une bonne semaine les amis et à bientôt dans Grand Plateau. Salut à tous.
Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.